RJB Info.
Le journal Joël Régli, bonsoir.
Bonsoir. Le coronavirus chinois ne représente pas encore de danger pour la Suisse. Les voyages vers la Chine restent également possibles. Pour l'heure, trop peu de cas sont avérés selon l'Office fédéral de la santé publique. Saint-Imier produit plus d'énergie solaire. La part engendrée grâce aux panneaux passe de 10 à 15% cette année. Un investissement rendu possible grâce à l'achat par les citoyens d'énergie plus chère. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse prennent fin ce soir. À l'heure du bilan, le directeur général des JOJ se dit très satisfait et parle de magie olympique. Demain matin, brouillard givrant en dessous de 700 à 800 mètres. Une masse humide qui sera persistante en certaines régions, mais qui devrait se dissiper en journée et laisser la place au soleil. Les Suisses n'ont pas à avoir peur du nouveau coronavirus apparu en Chine. Le conseiller fédéral Alain Berset a assuré aujourd'hui à Davos que la Suisse est très bien préparée. Il a d'ailleurs proposé son aide à l'Organisation mondiale de la santé. Apparu en décembre à Wuhan, dans l'est du pays, le virus a fait 17 morts depuis décembre et contaminé plusieurs centaines de personnes. Un cas a été signalé aux États-Unis. En Suisse, les aéroports n'ont pas pris de mesures spécifiques et les Helvètes n'ont pas à être inquiets, selon Daniel Corr, responsable de la division maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique.
C'est trop tôt pour vraiment faire un bilan, mais pour la Chine, où c'est vraiment le cas, c'est quelque chose où il faut réagir et où il faut tout faire pour contrôler et comprendre comment ce virus se transmet et dans quelle direction ça va se développer.
Est-ce qu'aujourd'hui les Suisses doivent renoncer à se rendre dans cette région ?
Pour le moment, il n'y a pas des recommandations officielles négatives de voyage, parce que si on regarde le nombre des cas, même si les numéros ils montent, c'est quand même très peu, hein. C'est 400 cas dans un pays où il y a des milliards de personnes.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Jérôme Favre. L'Organisation mondiale de la santé se réunit demain soir à Genève pour discuter de la situation. L'actualité régionale maintenant avec Saint-Imier qui branche ses prises au solaire. La part d'énergie produite grâce aux panneaux solaires installés à travers la commune va fortement augmenter cette année. Elle passe de 10 à 15% au minimum. Le reste est composé d'hydraulique suisse. Cette composition est disponible pour les clients qui choisissent le produit Topaz et qui payent donc une plus-value pour en bénéficier. Le responsable des services techniques de Saint-Imier nous explique ce qui est fait de cette plus-value. Patrick Haddad.
Alors, la plus-value pour le, par exemple, le produit Topaz, c'est 1,7 centimes par kilowattheure d'énergie électrique. C'est tout simplement, ces 1,7 centimes servent à payer le supplément que coûte l'énergie durable qui est produite sur le territoire communal. Le prix du marché est plus bas que le photovoltaïque produit localement, et donc c'est cette différence qui est couverte par cette augmentation de prix.
Donc c'est réinvesti directement dans les produits locaux ?
Absolument, ce n'est pas du bénéfice supplémentaire pour la commune, c'est simplement tous les kilowattheures solaires qui sont vendus à Saint-Imier sont produits à Saint-Imier. Donc le but c'est réellement de faire en sorte que les ventes, les demandes des clients soient couvertes par des productions locales. Ça n'aurait pas de sens d'aller chercher ce courant à des dizaines de kilomètres ou à l'étranger. Le but pour le courant photovoltaïque qui est vendu à Saint-Imier, c'est qu'il soit produit sur place. Et puis simplement, nous valorisons la production qui est réalisée sur ces installations en achetant le courant solaire à un prix plus élevé que le prix du marché.
Patrick Haddad au téléphone de Martha Duarte. Fou se lance dans un nouveau défi. Un peu plus d'un an après sa reformation, le groupe jurassien de musique va partir la semaine prochaine pour une tournée de 3 semaines en Colombie et en Équateur. La formation punk rock entamera ce voyage à Bogota avant d'enchaîner les festivals et dates à Cali, Medellín ou Quito. Et voir du pays, c'est justement ce qui plaît à Christophe Meyer, le leader du groupe.
Avec Fou, dès le départ, le but était de voyager. Presque d'abord de voyager et de faire de la musique ensuite. En allant jouer à l'étranger, ben on crée des contacts, souvent par les ambassades suisses. Et puis là, en Colombie par exemple, j'ai contacté un tourneur qui a organisé toute la tournée. C'est juste incroyable, on va jouer dans des festivals, on est en tête d'affiche. Ouais, pourquoi, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Mais en tout cas là, ça se présente vraiment bien.
Vous chantez en français, qu'est-ce que vous allez faire en Amérique du Sud ? Qu'est-ce qui explique que Fou va faire une tournée là-bas ?
Ben, chanter en français, ben, c'est une mauvaise question parce qu'il y a énormément de groupes qui chantent en anglais, presque une majorité. Et puis, on comprend souvent pas tous qui se chantent. Donc, pour moi, d'aller tourner en Amérique du Sud en chantant en français, ben, c'est déjà défendre notre langue à nous. Et puis, si on prend le chant comme un instrument supplémentaire plutôt qu'un message à faire passer, il n'y a aucun problème. C'est une mélodie, c'est... Puis surtout que nous, on n'a pas de message à faire passer, en plus avec Fou.
Christophe Meyer répondait à Vincent Jacquat. Le groupe entamera sa tournée le 26 janvier. Avant cela, Fou se rendra en concert au Bikini Test de la Chaux de Fonds. Ce sera ce vendredi. Un détour par le canton de Fribourg. Se promener à la cime des arbres. Ce sera bientôt possible au Papiorama de Chiètres. La mise à l'enquête d'un nouveau complexe, devisé à 11 millions de francs, s'est achevée la semaine dernière sans opposition. Un nouvel espace d'environ 1000 mètres carrés devrait notamment voir le jour en 2022. Le point d'orgue de ce projet, une visite de la canopée. C'est le dernier rêve en date du directeur du Papiorama, Caspar Bielveld.
Il y avait un truc qui nous manquait un peu, c'est de montrer en fait le sommet de la forêt. Parce que c'est quelque chose évidemment qu'on ne voit pas dans la nature aussi. Hein. Une forêt tropicale, si vous vous y promenez, c'est un peu rébarbatif. Parce que la plupart des temps, les animaux, on ne les voit pas. Donc voilà, c'est ce monde-là qu'on aimerait monter parce qu'il est surtout très très beau. Et puis dans cette nouvelle canopée, on aimerait aussi thématiser les oiseaux chanteurs et insectivores de l'Asie. Parce que c'est une crise massive en ce moment. Il y a déjà une quinzaine d'espèces qui ont disparu de la nature, mais qui sont uniquement sauvegardées par les zoos, principalement les zoos de l'Europe. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait qu'on thématise.
Et comment le visiteur va pouvoir se promener dans la canopée?
On va faire un pont à peu près à 4 mètres de hauteur. Et puis évidemment, on va un tout petit peu tricher. On va d'abord fabriquer des arbres géants. Évidemment, au sol, on aura une fausse canopée. Donc là, et puis, on va mettre les plantes sur les arbres qui émergent. On va aussi, mais ça va prendre du temps, on va aussi fabriquer des bonsaïs géants. Et puis là, ça va prendre pour moins une dizaine d'années. On va aussi commencer à installer des plantes là-dessus.
Des propos recueillis par Audrey Mondi. Le Papiorama va aussi créer à l'extérieur des jardins sur le thème de la nature dans la région des Trois Lacs. Une tour d'observation des oiseaux devrait notamment être dressée.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h07.
Sport. Les Jeux Olympiques de la jeunesse s'achèvent sur un bilan des plus radieux. La manifestation sportive prend fin ce soir à Lausanne avec la cérémonie de clôture. Elle aura réuni plus de 1800 athlètes du monde entier pour 2 semaines de compétition. Le public a répondu présent. 640 000 spectateurs ont assisté à ces JOJ. Le directeur général des Jeux Olympiques de la jeunesse Lausanne 2020, Yann Logan.
La météo a joué, tout a joué, donc il y a une magie qui est apparue, c'est peut-être la magie olympique justement, on est capitaine olympique depuis plus de 100 ans, je crois qu'on a une espèce de payback, hein. On rend ça à Pierre de Coubertin, cette région magnifique. Moi je pense que c'est le plus beau succès, c'est le plus beau cadeau qu'on peut voir, le plus beau reward, comme on dit, le plus beau reconnaissance pour tous les bénévoles, tous les volontaires, toutes les personnes, les athlètes, de voir ces sourires partout. Et je crois que jusqu'à ce moment, on a quasiment presque fait un sans faute, où tout le monde enthousiasmé, et je crois que c'est une belle chose pour l'Olympisme, les valeurs respect, amitié, excellence, cette volonté du CEO aussi de changer, de s'adapter aux régions, d'avoir ces nouvelles normes, comme on dit, d'être flexible. On l'a montré, on fait du patinage de vitesse en plein air, on déplace en France des compétitions, on a eu plein de choses nouvelles qu'on a fait de transport public, on a testé plein de nouvelles choses qui maintenant sont des petites graines déposées et qui permettront, je pense, de faire des jeux de plus en plus durables.
La dernière journée de compétition n'a pas permis à la Suisse de fêter de nouveaux podiums. La délégation helvétique a tout de même signé un nouveau record dans ses JOJ avec 24 médailles, 10 en or, 6 en argent et 8 en bronze. Roger Federer n'a fait qu'une bouchée de Philippe Krajinovic aujourd'hui lors du deuxième tour de l'Open d'Australie. Dans la Rod Laver Arena de Melbourne, le joueur de tennis balois s'est imposé en 3 manches contre le Serbe. 6-1, 6-4, 6-1. L'affaire a été classée en 1h30. Roger Federer a donné l'impression de ne laisser aucune chance à son adversaire dès les premiers échanges de la partie. Roger Federer.
C'était un bon début de match. Pour moi, c'était important pour montrer un peu le rythme, la cadence, peut-être aussi la variation que j'ai dans ce match et rendre les choses les plus difficiles possibles à Krajinovic aujourd'hui parce qu'il a aussi joué un long match hier. Peut-être c'est aussi d'essayer de casser un peu sa volonté peut-être dès le début. Alors d'un côté, c'est très positif. En même temps, ça n'a pas coûté d'énergie. Mais en tout cas, j'étais très content. C'était une bonne lancée pour la partie pour moi. Deuxième set, c'était un peu plus serré. Heureusement, j'ai vite réagi là-dessus. Après 2-7-0, forcément, ça allait être toujours méga difficile pour lui de revenir dans le match avec la fatigue, aussi quelque chose qu'il a eu au bras. Mais en tout cas, de mon côté, je peux être très satisfait. Je trouve que c'était une bonne partie.
Roger Federer se hisse pour la 21e fois en 16e de finale de l'Open d'Australie. Son prochain adversaire est australien John Millman, matricule 47 à l'ATP. Mais avant cela, Stan Wawrinka jouera demain à 9h heure suisse contre l'italien Andrea Seppi. Et dans le simple dame, Belinda Bencic en découdra durant la nuit avec la Lettone Yelena Ostapenko. Le match débute à 1h du matin. Olivier Bury n'est pas encore rassasié. Il sera demain soir au départ du rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde. Le pilote de Belpraon va y prendre part pour la 22e fois de sa carrière. Navigué par Anderson Levrati, Olivier Bury va rouler une VV Polo R5 pour l'occasion. Il vise la place de meilleur pilote amateur. Et pour y parvenir, il faudra qu'il déjoue les nombreux pièges de ce mythique rallye. Olivier Bury.
On va trouver vraiment les quatre saisons durant ce rallye. Et si tous les météorologues sont assez similaires par rapport aux prévisions qu'on va retrouver, on va avoir des portions terriblement froides la nuit. Ça va tendre et détendre légèrement la journée avec 4-5 degrés. Donc tout ce qui sera à l'ombre sera relativement gelé. Donc ça sera vraiment très très compliqué. Donc ça sera un rallye où les choix de pneus seront prépondérants, les ouvreurs seront terriblement importants, qui vont devoir nous faire un choix de pneus et nous dire à peu près ce qu'on va trouver en nous l'expliquant. On n'aura pas de visualisation, mais ça sera vraiment un rallye de nouveau compliqué.
Et le prévôtois Sacha Althaus prend aussi part au rallye de Monte-Carlo. Il pilotera une Peugeot 208 R2 aux côtés de Lisiane Zbinden. C'est soir de derby à la Clientis Arena. Le HC Satimier y accueille le HC Franche-Montagne ce soir à 20h. Les deux formations s'affrontent pour la troisième fois de l'hiver en première ligue de hockey sur glace. Les Imériens tenteront d'obtenir leur premier succès de la saison face aux leaders du classement. Vous entendrez des réactions demain dans la matinale. Merci de votre fidélité. Prochaines informations, c'est à 18h30. Belle soirée.
Bonne soirée à vous également, Joël Régli. On va prendre des nouvelles du ciel. On va écouter du Goldman, parce que c'est toujours cool d'écouter du Goldman. Et ensuite, on prend l'air. Pour ce soir, nous profiterons encore d'un temps calme et d'un ciel bien dégagé. C'est durant la nuit que le brouillard devrait s'installer dans toute la région. Demain, nous nous réveillerons sous ce même brouillard, principalement dans les basses couches. Durant l'après-midi, il devrait se dissiper, mais certains nuages seront plus tenaces. Sinon, au-dessus de 800 mètres, le soleil rayonnera de mille feux. Concernant les températures, attention, ça baisse. D'après Météo News, il fera entre moins 7 et moins 3 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre 1 degré à Moutier, 2 degrés à Bienne et Tramelan, 6 degrés maximum si vous allez dans le vallon de Saint-Imier. Vendredi, quant à lui, verra une nette amélioration, notamment au niveau du thermomètre.